Très heureux d'être parmi vous ce matin. Merci de nous accueillir. Et ce qu'on apprécie, c'est qu'on a senti que c'était un accueil, mais un accueil chaleureux. Il y a des endroits, des fois, quand on vient pour la première fois, ils t'accueillent, ils sont un petit peu... qui on a invité? Mais ici, vraiment, ce matin, je vous remercie. On se sent à l'aise, on se sent accueilli chaleureusement. Et soyez pas étonnés si j'utilise une tablette. J'ai ma Bible, mais j'utilise souvent aussi la tablette. Je suis pas le premier, ça a commencé avec Moïse. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Mais de plus en plus, c'est utile, hein, parce qu'on peut prendre des notes, on peut aller à différentes versions, comparer. Et là, on comprend pourquoi Moïse a reçu des tablettes. Alléluia. Alors, on avait décidé et reçu vraiment d'apporter comme message ce matin sur le véritable pardon biblique. J'aimerais simplement dire en introduction que chacun d'entre nous, nous avons péché contre trois personnes. La première personne contre qui nous avons péché, c'est contre Dieu. Ensuite, nous avons péché contre les autres et nous avons péché contre nous-mêmes. Et qu'est-ce que cela nous communique comme message? Eh bien, c'est que chacun d'entre nous avons besoin d'être pardonné parce que nous avons péché contre et nous avons aussi besoin d'accorder le pardon. Alors, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous connaissez cette prière du disciple. Quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous, enseigne-nous comment prier, il y a cette fameuse prière qu'on appelle le Notre Père. Et vous savez tous, dans le Notre Père, il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et la fin du passage de Matthieu 6, de cette prière, voici ce qu'il est dit. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et amen, normalement, ça met le point final à à quelque chose qu'on vient d'annoncer, qu'on vient de mentionner. Quand on dit amen, ça arrête là. Et là, je pense qu'ils ont mis l'amen en mauvaise place. Bon, je ne veux pas qu'on commence un débat par rapport à la parole de Dieu. Elle est quand même, mais quand tu lis ce qui suit, là, amen, donc au verset 14 de Matthieu 6, ça continue, ça dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et là, j'ai dit, waouh, c'est du sérieux. Dans Notre Père, déjà, celui qui déclare cette prière dit, pardonne-moi. Il dit à Dieu, pardonne-moi comme moi je pardonne aux autres. Et à la fin, après le Amen, Jésus continue, il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais vraiment besoin de pardon. Et j'en ai encore besoin quotidiennement, régulièrement, j'ai besoin de pardonner. Et dans Hébreux 12, 15, il est écrit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Alors, ce verset me dit que je dois veiller sur moi pour ne pas être privé de la grâce de Dieu. Et vous savez, on est dans la dispensation de la grâce. On n'est plus maintenant sous l'effet de la loi, quoique la loi est toujours en vigueur, elle est toujours là. Sauf que par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, eh bien, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Éphésiens 2, 8 et 9 que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on puisse recevoir un pardon complet. Avant, c'était tellement compliqué pour le peuple de recevoir le pardon. Il y avait le jour du grand pardon, le Yom Kippour, qu'on appelle en hébreu, où le souverain sacrificateur, c'était la seule journée de l'année où il entrait dans le lieu très saint avec l'offrande pour le sacrifice, pour le pardon des péchés du peuple. Et c'était en tremblant qu'il entrait dans le lieu très saint, parce que si Dieu n'agréait pas le sacrifice du peuple, eh bien, le souverain sacrificateur tombait raide mort dans le lieu très saint. C'est pour ça qu'on avait attaché une petite corde à sa cheville pour le sortir de là si ce n'était pas agréé. Donc, c'était une chose terrible que de se présenter devant Dieu pour le pardon. Mais aujourd'hui, le voile qui nous séparait de Dieu a été détruit de haut en bas lorsque Christ est mort à Golgotha. Et aujourd'hui, on a un libre accès à la présence de Dieu. Il a inauguré une route nouvelle et on peut aller dans la présence de Dieu et simplement à travers la repentance, demander pardon à Dieu et obtenir ce pardon. Et il y a un pardon qui est difficile pour nous à saisir et à mettre en pratique dans notre vie, parce que c'est un pardon qui est complet, qui est total. Dieu, il nous dit qu'il oublie complètement nos péchés, il les jette dans l'océan de l'oubli et qu'il ne se souvient plus de nos iniquités. Alors que nous, on pardonne, mais je te pardonne, mais je m'en souviens. Je m'en rappelle. Fais attention. Alors, ce que j'ai constaté, donc, c'est le fait que j'ai péché contre Dieu, contre les autres et contre moi-même, donc j'ai besoin de pardon. Et j'ai aussi besoin de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort. Et dans le même ordre, combien de fois j'ai vu des gens qui en veulent à Dieu et qui n'ont jamais pardonner à Dieu certaines choses, on le tient responsable. Et quand vous parlez autour de vous à des non-chrétiens et que vous leur parlez de Dieu, de Jésus, de l'Évangile, combien de fois vous entendez les gens dire « Si Dieu existait, il ne permettrait pas ceci, il n'y aurait pas cela. » Et dès qu'arrive un malheur, c'est toujours Dieu qu'on accuse. Et on en veut à Dieu. Et combien même de chrétiens, en veulent à Dieu par rapport à des choses. Donc, comme j'ai offensé Dieu, en même temps aussi, j'ai à pardonner à Dieu des choses que je lui ai imputées à tort, mais que je lui ai imputées quand même. Ensuite, les autres. Je ne suis pas un prophète, mais je peux garantir qu'il n'y a pas une personne ici qui, un jour ou l'autre, n'a pas été offensée par quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un ici t'a jamais été offensé par quelqu'un d'autre? Non. Donc, on est tous à la même enseigne. Mais, de la même manière, il n'y a personne ici qui, un jour ou l'autre, n'a pas offensé quelqu'un d'autre. Donc, j'ai besoin de pardonner, d'être pardonné, mais j'ai aussi besoin de pardonner et de me pardonner à moi-même aussi. Dans ces trois catégories-là, il y a un pardon qui doit être appliqué. Maintenant, moi, ce que j'ai constaté quand je me suis converti en 1982 dans une assemblée autre que l'Église catholique dans laquelle j'avais grandi, j'avais jamais mis les pieds dans une autre Église que l'Église catholique, et je savais même pas qu'il existait d'autres écouistes, etc., parce que j'étais à fond dans le monde, et Dieu, je l'avais mis dans un petit carton à l'âge de 14 ans, qui s'appelait « Religion ». Et j'avais dit, un Dieu comme ça, j'en veux pas. Maintenant, je vais vivre ma vie à ma façon. Et je vivais sans Dieu, sans aucune pensée vers Dieu, sans me préoccuper si ce que je faisais plaisait ou déplaisait à Dieu. J'en avais rien à cirer de Dieu. C'est triste à dire, mais ça a été mon parcours de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 32 ans. La bonne nouvelle, même si moi j'avais dit à Dieu, j'ai pas besoin de toi dans ma vie, lui me cherchait. Lui m'a cherché pendant toutes ces années, et combien de fois il m'a gardé de la mort, parce qu'il y avait des projets formés sur moi, il y avait une destinée qui était mienne, mais que dans laquelle je n'entrais pas par rébellion, par désobéissance ou par complètement indifférence de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est Dieu qui nous cherche. La Bible dit dans Jean 15, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et Dieu me cherchait, et il m'a trouvé en 1980, et je suis tellement content qu'il m'ait trouvé, parce qu'il a changé complètement ma vie. Et donc après, quand j'ai commencé à entendre la parole de Dieu, entendre des messages sur la parole de Dieu, j'ai réalisé qu'il fallait pardonner. Et on nous disait, il faut que tu pardonnes. Et c'est pas faux. C'est vrai qu'il faut qu'on pardonne. Parce que si je veux être pardonné, il faut que je pardonne. Parce que Dieu me pardonne dans la même mesure que j'accorde le pardon aux autres. Donc, le problème que j'ai constaté au fil des années chez les croyants, c'est pas le manque de pardon. C'est, si tu es un bon chrétien, tu pardonnes à ceux qui te font du tort. Est-ce qu'on est à la même enseigne là-dessus?
Amen.
Amen. Sauf que combien de fois j'ai vu des gens qui disaient, oh, j'ai pardonné, mais. Et il y avait toujours la blessure, il y avait toujours le souvenir qui ramenait la blessure et les distances entre les gens alors qu'on disait avoir pardonné. Et, pardon?
Il faut du temps.
Alors, il faut du temps, absolument, sauf que ça commence par une décision. Et c'est ça que j'ai réalisé. C'est qu'un jour, j'ai entendu un enseignement sur le pardon biblique qui a complètement révolutionné ma façon de pardonner et qui a été tellement libérateur pour moi. Et j'en ai fait l'expérience et j'en ai fait mien. Cet enseignement, il est devenu partie intégrale de ma vie et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. C'est que le pardon, c'est pas une émotion. C'est pas quelque chose que tu accordes, tu es dans une réunion, exemple, comme ce matin, tu entends un message, tu es touché, tu te rends compte, oui, c'est vrai, il faut que je pardonne à un tel. Ah oui, je pardonne, puis après ça recommence. C'est pas une émotion. Le pardon biblique est une décision que je prends. L'apôtre Paul dira, dans 2 Corinthiens 2, les versets 10 et 11, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Paul est en train de dire, écoute, si j'ai quelque chose à pardonner, je prends la décision de pardonner parce que moi, Christ, m'a tout pardonné quand je lui ai demandé pardon. Et si je ne fais pas ça, eh bien, je donne avantage à Satan sur moi et j'ignore pas ses desseins. Donc, on a vu tout à l'heure dans Hébreux 12, 15, que si je ne pardonne pas, je laisse l'amertume entrer dans mon cœur, je me prive de la grâce de Dieu. Et deuxièmement, j'ouvre la porte à Satan et j'ignore pas ses desseins. Et Jean 10, 10 nous dit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Donc, si tu sais que le non-pardon ouvre la porte à un adversaire qui vient pour t'égorger et te tuer, si tu es le moindrement intelligent, tu vas dire, je ne veux pas y ouvrir la porte. Donc, je vais prendre la décision de pardonner parce que je ne veux pas me priver de la grâce de Dieu et je ne veux pas donner accès à Satan. Dans Éphésiens 4, Paul dira, si tu te mets en colère, si un différent et que ce différent t'amène à la colère et à tous ces sentiments qui sont une émotion, il dit, laisse pas le soleil se coucher sur ta colère, afin de ne pas donner accès au diable. Donc, on voit comment c'est important d'accorder le pardon, de prendre la décision de pardonner. Et la loi disait à l'époque, avant Christ, il fallait que tu pardonnes jusqu'à 7 fois à ton ennemi. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, un jour, arrive à Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois devrais-je lui pardonner? Serais-je jusqu'à 7 fois? » Il veut se montrer spirituel jusqu'à 7 fois. Et Jésus dit, non Pierre, jusqu'à 70 fois cette fois. Purée, Jésus met la barre encore plus haute. Il est en train de dire, non, 7 fois, ça c'était la loi. Mais la grâce, c'est un pardon continuel. C'est pas une fois, c'est pas 7 fois, c'est 70 fois, 7 fois. Par offense, par personne. Ça veut dire que le pardon doit être quelque chose de naturel, quelque chose de spontané, parce que je ne veux pas me priver de la grâce de Dieu. Je sais les ravages que l'amertume dans mon cœur peuvent produire autour de moi. Ça va infecter mon entourage. Et ça produit des maladies. Aujourd'hui, c'est prouvé combien de maladies proviennent du non-pardon, de la haine, de la colère, de la vengeance qui n'a pas été réglée, qu'on n'a pas laissé à Dieu le soin de nous faire justice et de lui de régler la situation. Donc, le pardon biblique, ce n'est pas une émotion, c'est une décision que je prends. Je décide de pardonner parce que moi, j'ai besoin de pardon. Moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et je ne veux pas m'en priver, donc je prends la décision de pardonner. Mais maintenant, le pardon biblique, ce n'est pas une minimisation de l'offense que tu as subie. J'ai fondé en 1998 un hôpital spirituel dans la banlieue de Dijon qui s'appelle le Bon Samaritain. On a accueilli au-delà de 3500 personnes dans les 7 années que nous avons fonctionné là-bas. Et c'était une maison d'accueil, d'écoute, de prière, de cure d'âme, de délivrance, etc. Et on a entendu mais des histoires d'horreur. Il y a des personnes, mais ce qu'ils ont subi depuis la conception jusqu'au moment où ils sont venus vers nous, tu dis, mais c'est... T'es obligé de pincer pour croire que c'est une réalité quand des enfants sont abusés sexuellement, violemment par les parents, que des enfants sont maltraités et que toute leur vie ont été rejetés, et non seulement des parents, mais ça s'est continué dans le milieu scolaire, puis dans la vie professionnelle et autres, toujours ces blessures, ce rejet, cet abandon, et les blessures profondes qu'ils ont subies. Tu dis, purée, comment tu peux arriver à pardonner? Il y a des choses qu'on pourrait dire, mais c'est impardonnable ce qu'on m'a fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai entendu des gens nous raconter des histoires d'horreur et la conclusion était, maintenant tu dois prendre la décision de pardonner. C'est impossible, j'y arrive pas, je peux pas pardonner. Et on dit, c'est faux. Tu peux prendre la décision de pardonner. Mais par contre, minimise pas ce qu'on t'a fait subir. C'est pas de minimiser ce qu'on t'a fait subir. Pour moi, j'appelle ça le pardon biblique, c'est une facture détaillée de l'offense qu'on t'a subie. Et quand j'ai été enseigné à travers cet enseignement sur le pardon biblique, c'était en 1987, et quelques mois après, ma mère est décédée. Et ma mère... J'avais une super relation avec ma mère. Ma mère, c'était une femme qui était toujours en train de me complimenter. Si j'arrivais à la maison, elle disait, ah, t'es beau aujourd'hui, ah, ta cravate, elle te va bien. Elle me complimentait tout le temps. Donc, t'aimes ça être dans la présence de personnes qui te complimentent, n'est-ce pas? Hein? Ça fait du bien au cœur, fait du bien au moral. J'avais une super relation avec ma maman et j'ai pu l'amener à la repentance au Seigneur Jésus-Christ qu'elle connaissait déjà, mais dans la tradition du catholicisme, on ne prêche pas la repentance, c'est le salut, c'est le pardon, la confession, etc. Et là, je lui ai expliqué ce qu'était le salut par grâce. Et elle a acquiescé, elle a adhéré à ça tout de suite et j'ai prié avec elle combien de fois. Et là, devant son cercueil, j'ai une tristesse, je viens de perdre un être cher qui est ma mère, mais je sais qu'on se reverra ensemble dans l'éternité. Elle est dans la présence du Seigneur et un jour on sera réunis ensemble. Mais là, devant ce cercueil, j'ai dit, mais si c'est mon père qui était là, celui qui m'a donné la vie, cet homme, si c'était lui qui était dans le cercueil, cet homme qui m'a donné la vie, cet homme qui a pourvu à mes besoins, serait parti de cette terre sans que j'aie pu lui dire que je l'aimais. Et là, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, ne permets pas que papa meure avant que je puisse lui dire que je l'aime. Et vous savez, on fait des prières comme ça, on a des désirs, mais si ce n'est pas suivi d'une action, ça reste des vœux pieux. Ça reste des choses inatteignables parce que tu espérerais que, et tu voudrais que, mais tu ne fais rien pour y arriver. Et le Saint-Esprit m'a tout de suite repris. Il dit, tu veux que ça arrive? Ben, il dit, va le voir ton père, puis dis-lui que tu l'aimes. Je dis, je suis pas capable, impossible. Ah non, moi, aller voir mon père, puis il dit, purée, il y avait un tel mur entre mon père et moi, un tel fossé. Alors, je suis 8e d'une famille d'11 enfants, je viens d'une famille qui était dysfonctionnelle, il y avait beaucoup de violence dans la maison, et j'avais un père absent, et quand il était présent, je souhaitais qu'il soit absent. Ça vous donne un peu la relation qui existait dans le foyer. Et si tu m'avais demandé, Michel, quelle est la personne envers qui tu as le plus d'amertume, de haine, de colère, celui qui t'a le plus blessé dans ta vie, sans hésiter, tout de suite, c'est mon père. J'en avais contre lui. Et donc, Saint-Esprit m'a emmené, après le décès de ma mère, de me retirer dans un... Il y avait un monastère au Québec, près du lac Memphrémagog, pour ceux qui sont déjà allés au Québec. Et là, j'ai été faire un jeûne, un séjour de 4 jours de jeûne, de silence. Ça, c'est dur pour moi, là, 4 jours de silence. Et juste parti avec ma Bible, beaucoup de papier et de crayons, et je suis allé faire des factures. Et la première facture que j'ai faite, mon père, j'ai marqué « Papa, voici pourquoi je t'en veux ». Et là, je me suis vidé le cœur, comme on dit chez nous. J'ai marqué toute la haine, toute la colère, tout ce que je lui reprochais de m'avoir fait ou de ne pas avoir fait, ou etc. Je me suis vidé le cœur. J'ai réglé ça. J'ai réglé mes comptes avec mon père, mais pas face à lui, face à Dieu. Je l'ai écrit. J'ai fait sa facture. Et à la fin de la facture, j'ai dit « Maintenant, papa, malgré tout ça, comme Christ m'a pardonné, je prends la décision de pardonner. » Et j'ai pris symboliquement un gros tampon que j'ai trempé dans le sang rouge de Jésus-Christ et j'ai dit « Facture payée et acquittée. » Et je l'ai classé, non pas dans les comptes à recevoir, mais dans les factures acquittées, réglées. Et après, j'ai fait une pour mon ex-femme. Puis après, j'ai fait une facture pour un professeur qui m'avait humilié devant la classe, et etc. Et le Saint-Esprit me rappelait plein de situations comme ça où j'avais été offensé. Et là, je décidais pour chacune de ces personnes, pour chacune de ces circonstances, de faire une facture et de détailler. Écoute, on n'est pas le tapis sur lequel on s'essuie en entrant. On est des enfants de Dieu, on a une dignité. Il y a des choses qu'on nous a fait subir que si on ne les avait pas subies, notre vie aurait été différente. C'est ça la réalité. Et je ne veux pas traîner ça toute ma vie. Donc, j'ai fait des factures. Je peux vous garantir, il y en avait épais. Et à la fin de la quatrième journée, je suis descendu au bord de ce magnifique lac. Il y avait une petite cheminée, j'ai fait un feu de cheminée. Et là, j'ai brûlé toutes ces factures-là. Puis j'ai dit, maintenant, Saint-Esprit, comme le feu détruit ces factures, toi, Saint-Esprit, viens guérir toutes les blessures que mon cœur a subies par ces offenses. Et maintenant, je tourne la page et je veux être libre de tout ce passé. Donc, le pardon biblique, c'est pas de minimiser ce que tu as subi, c'est de faire une facture détaillée. C'est libérateur, parce que quand tu écris, la puissance de l'écriture, c'est que tu as quelque chose en dedans de toi, et tu le sors et tu le mets sur papier. Tu le sors de toi, et tu le couches sur papier, et après, tu mets ce tampon « pardonné ». Comme Christ m'a pardonné, je décide de pardonner. Et ça, c'est extraordinaire. C'est tellement libérateur. Et tout à l'heure, quand je le préparais, j'ai fait un CD qui s'appelle « Mon papa, c'est le plus fort ». Et la fin est juste glorieuse. Je voulais l'offrir à Timothée. Timothée, t'es où? T'es là? Allez, viens le chercher. Je ne sais pas pourquoi je te l'offre à toi, mais je sais que t'es un super papa, ça n'a rien à voir. C'est peut-être que tu vas l'utiliser pour quelqu'un d'autre. OK? Allez, sois béni. Amen. Mon papa, c'est le plus fort. Et donc, suite à ça, j'ai été capable d'aller voir mon père. Et écoutez, j'ai 68 ans, j'ai été très actif dans beaucoup de sports. J'étais gardien de but au hockey sur glace. On va dire de quoi il faut peut-être du courage pour être gardien de but dans ce sport-là. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais le plus grand exploit de toute ma vie, ça a été d'aller voir mon père pour lui demander pardon. C'est le plus grand exploit que j'ai jamais réalisé. Parce que pour moi, c'était le plus grand obstacle, le plus grand défi. C'était impensable. Il y avait un tel mur épais entre mon père et moi. Et suite à toutes ces factures, et toutes ces factures, quelques mois après, parce que comme tu dis, il faut aussi un certain temps. Mais après que je me suis libéré de ça, j'ai été poussé par le Saint-Esprit. Il disait, vas-y, va le voir. Et quand je suis allé voir mon père, j'ai pas été faire aucun reproche. J'avais tout réglé ça sur papier. Les factures étaient brûlées, détruites, c'était acquitté. Je suis pas allé le collecter. Dire, hey, tu dois... Non. J'ai dit, papa, je viens te demander pardon. Tu devais être déçu d'avoir un fils comme moi. Toi, tu as été 42 ans pour la même compagnie. Tu as toujours été un homme responsable par rapport à ta paternité, même si bon, etc. Mais tu m'as donné la vie. Et tu as quand même pourvu à mes besoins 42 ans pour la même compagnie. Moi, je restais jamais plus que 42 jours à la même place. On m'appelait plume au vent. J'étais parti à gauche, j'étais parti à droite, j'étais à un endroit, ça faisait pas mon affaire, je partais de là, et un jour j'annonce à mon père que je m'enrôle dans l'aviation royale du Canada, j'ai signé pour 5 ans. Et là mon père il dit, enfin eux autres, ils vont le briser ton caractère. Et un an après, l'armée m'a mis à la porte. J'avais des problèmes, je devais être un sacré caractère. Aujourd'hui, je suis presque parfait maintenant, mais à l'époque, vous voyez, et ça a été pour moi une démarche où j'ai pu aller voir mon père et lui demander pardon. J'ai pas vu mon père pleurer aux funérailles de ma mère, quoiqu'il l'aimait. Mais il était le 12e d'une famille de 12 enfants et un père, un homme, ça pleure pas. Il n'a pas pleuré. Mais quand j'ai demandé pardon à mon père et que je lui ai dit que je l'aimais, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu pleurer mon père. L'amour est puissant. Il y a une puissance dans le pardon qui est extraordinaire. La puissance du pardon. Mais pas un pardon, je te pardonne parce que il faut que je te pardonne. J'avais mesuré les conséquences de ce que j'avais subi. Je n'ai pas minimisé ce que j'avais subi comme enfant dans la famille de par mon père. Je ne l'ai pas minimisé. Mais comme moi, j'ai eu besoin de pardon. Et quand j'ai demandé pardon à Christ, il m'a complètement pardonné. J'ai décidé de pardonner. Et après, le pardon biblique, c'est pas une émotion, c'est une décision. C'est pas de minimiser ce que tu as subi. C'est une facture détaillée. Mais ça efface pas de ta mémoire le souvenir. La mémoire, c'est une faculté qui se rappelle. Le souvenir revient quand tu revois les personnes, quand tu es remis dans des situations. Le souvenir est là, sauf que le souvenir ne porte plus avec lui la blessure, parce que le pardon ouvre à la guérison. Regardez le mot pardon. Par met un espace entre le par et le don. C'est par don que j'accorde le pardon. Comme Dieu m'a gracié, comme Dieu m'a pardonné par don. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Et ce pardon, je l'accorde par don. C'est un don que tu fais à toi-même.
Amen.
C'est à toi. Tu es le premier bénéficiaire de ce pardon. Le cadeau que tu accordes, le pardon, le don que tu accordes, c'est d'abord toi qui es le premier bénéficiaire. Vous savez, le non-pardon, c'est le seul poison que tu prends en pensant qu'il va faire du mal à l'autre. Non. Pardon, c'est toi qui détruis. Et privé de la grâce de Dieu, tu ouvres la porte à Satan. Et combien de familles sont dévastées, sont déchirées? Combien de couples sont allés au divorce ou sont déchirés? Pourquoi? Le non-pardon. Le non-pardon, on ne règle pas les choses, on ne règle pas les situations. Et combien de gens j'ai vu parce que le souvenir revenait de dire, ben, le diable vient puis tu n'as pas pardonné, regarde, tu t'en souviens. Oui, j'ai pardonné, j'ai pris la décision. Mais maintenant, je suis entré dans un processus de guérison et dépendamment de l'ampleur ou de la profondeur de la blessure, il faut un certain temps, plus ou moins long, pour que la guérison s'installe. Sauf que je ne suis plus dans l'amertume. Je ne suis plus dans le non-pardon, j'ai pardonné. Mais là, je suis entré en convalescence. Je suis en convalescence pour que Dieu, par le pardon que j'ai accordé, ait le temps, par son Saint-Esprit, le Consolateur, de venir guérir les blessures profondes de mon âme. Je suis en convalescence. Et la quatrième étape du pardon biblique, le pardon biblique, le pardon et la réconciliation sont deux étapes complètement différentes. Le pardon ne t'oblige pas à te réconcilier avec l'offenseur si l'offenseur ne reconnaît pas son offense. Et ça, c'est le point qui dérange le plus. La réconciliation, pour qu'elle puisse se produire, l'offenseur doit reconnaître ses torts et faire une démarche de pardon. Je m'explique. Est-ce que vous croyez ici que Dieu est amour? Est-ce que selon vous, il y a un plus grand amour que Dieu?
Non.
Dieu qui est amour. Dieu qui est celui qui nous a créés. Eh bien, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, nous devons reconnaître l'avoir offensé et lui demander pardon. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus que le salut, c'est une grâce qui nous est accordée, c'est au moyen de la foi qu'on le saisit, mais c'est au travail de la repentance. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire quoi confesser de ta bouche le Seigneur Jésus? Tu reconnais qu'il est Seigneur, tu reconnais que son sacrifice à la croix est le seul moyen qui te réconcilie à Dieu. Et pourquoi tu as besoin d'être réconcilié à Dieu? C'est parce que tu es séparé de Dieu. Et qu'est-ce qui te sépare de Dieu? C'est le péché. Et donc, tu dois venir à Dieu et dire, « Père, j'ai péché contre toi. Pardon, pardon Dieu, j'ai péché contre toi. » Et à travers la repentance, là, il y a la réconciliation. Et Dieu qui est amour et qui ne se réconcilie pas avec sa propre créature qu'il a créée, à moins que cette créature ne vienne à travers la repentance, me demanderait à moi de me réconcilier avec des offenseurs qui n'en ont rien à cirer des offenses qu'ils m'occasionnent, qui n'en ont rien à cirer de moi, qui m'offensent à répétition, et même si je parle avec eux que ça m'offense, c'est ton problème, puis ils continuent à m'offenser, et Dieu voudrait que je continue à me mettre dans la cage, puis je donne le bâton, puis je me laisse frapper, non? Non, Dieu dit, toi, ta responsabilité, c'est le pardon. Toi, tu as décidé de pardonner. Tu n'as pas minimisé ce que tu as subi. Tu as fait la facture détaillée. Tu as appliqué le sceau du pardon. Et après, tu t'ouvres à la guérison. Et pour qu'il y ait réconciliation, il faut que la personne, l'offenseur, vienne te dire, je te demande pardon. Je t'ai offensé. Et là, tu dis, tu es déjà pardonné. Viens, mon frère, on peut se réconcilier.
Amen. Amen.
Seulement à ce moment-là qu'il peut avoir réconciliation. Sinon, tu te remets toujours en position d'être blessé. Et c'est là qu'il fait, à mon avis, c'est le plus grand manquement dans la compréhension du pardon biblique, c'est qu'on te dit, parce que tu as pardonné, tu dois te réconcilier. Non, non. Je me réconcilie avec l'offenseur qui reconnaît m'avoir offensé et qui vient me demander pardon. Et quand l'offenseur vient vers toi, c'est facile, c'était déjà pardonné, mais j'attendais cette démarche de ta part pour qu'on puisse se réconcilier ensemble. Le père prodigue, c'est ça, moi j'appelle ça le père prodigue. C'est pas le fils qui est prodigieux là-dedans, c'est le père. Il sait dans quel état est son fils. Il sait ce que son fils a fait, parce que dans les villages, tout ça sait, hein? Et il sait, et il va pas le chercher. Il va pas le chercher. Même s'il est rendu à manger avec les pourceaux, ce qui est la pire dégradation pour un juif, c'est d'être avec des pourceaux. Il sait où est son fils, il sait dans quelles conditions il est, mais il attend, il prie, il intercède pour que son fils reconnaisse et vienne à travers la repentance demander pardon. Et le fils, quand il est entré en lui-même, il dit, je vais retourner vers mon père et je vais dire, père, j'ai péché contre le ciel. Et contre toi. C'est toujours d'abord contre Dieu que le péché, l'offense se produit. Mais lui, il est prêt à nous pardonner si, 1 Jean 8, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et le sang de son Fils nous purifie de toutes nos iniquités. Lui, il est prêt à nous pardonner, mais la condition, c'est si nous confessons nos péchés. Si nous reconnaissons avoir péché contre Dieu et nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Et là, il y a une réconciliation qui peut se faire. Et le Père prodigue, c'est ce qu'il a fait. Il attendait, lui, le pardon. Il avait déjà tout pardonné à son fils. Mais que pour que le fils soit réconcilié et rétabli dans la famille, il fallait que le fils passe à travers la repentance. Bien-aimé, en conclusion de ce message ce matin, Dieu ne te demande pas d'être réconcilié avec des offenseurs qui ne reconnaissent pas les offenses. Il te demande, toi, prends la décision de pardonner. Fais la facture. Minimise pas ce que tu as subi. Mais règle ça entre Dieu et toi. Quand je suis allé voir mon père, je n'ai pas fait de reproches. J'avais tout réglé ça avec Dieu. C'est vraiment, il y a une puissance dans la facturation. Il y a une puissance de libération pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, si tu prends cet enseignement au sérieux, tu l'appliques et tu vas être étonné du nombre de personnes à qui tu as à faire des factures. Demande au Saint-Esprit, le psaume 139, et c'est ce qu'il nous dit au verset 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Demande au Saint-Esprit de te révéler. Il y a des personnes, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour savoir à qui tu as affaire des factures. Allô? C'est tout de suite, hein, les noms viennent, papa. Oui, je sais à qui j'ai besoin de faire des factures. Mais pour d'autres, vous serez étonnés. Moi, il y a des noms, il y a des situations. Ce professeur qui m'a fracturé le petit doigt avec sa baguette du tableau, j'avais complètement oublié ça. Mais j'en ai tellement voulu pendant un certain temps. Non seulement il m'avait humilié devant la classe, mais il m'avait fracturé le petit doigt. Puis à l'époque, tu n'osais pas le dire à ton père, tu manges une baffe de plus. À l'époque, on éduquait. Aujourd'hui, le prof, il serait en garde à vue. Et moi qui avais quand même fait des conneries pour mériter peut-être pas cette violence-là, mais tu vois. Et moi, je serais innocent et le prof, bon. Mais à l'époque, et c'était enfoui en dedans de moi. Le Saint-Esprit veut qu'on soit complètement libre. Complètement libre. Et il est venu me remontrer la scène. Et là, il est remonté en moi des sentiments de cette amertume, de la colère que j'avais eue envers lui à l'époque. Et là, Saint-Esprit est venu, il dit maintenant, fais-lui sa facture. Il a marqué Roger, voici pourquoi je t'en veux. Tu m'as humilié à cause de l'humiliation devant la classe. Voici les conséquences qu'il y a eues. Et par la suite, pour toutes ces factures-là, je me suis fait une facture à moi aussi. Pourquoi? Parce que quand tu subis une offense, tu es victime. On vient de t'offenser. Mais la façon que tu réagis à l'offense, c'est ta responsabilité. Tu n'es pas obligé de réagir en colère. Tu n'es pas obligé de réagir par la vengeance. Tu n'es pas obligé de réagir par l'amertume. Ça, c'est ta responsabilité. Et donc, pour chacune des offenses, je me suis fait une facture et dis, Michel, tu n'étais pas obligé de t'en aller dans la drogue pour fuir toutes ces blessures-là et autres. Tu aurais pu chercher auprès de Dieu la guérison, la consolation et la réconciliation, mais tu es allé ailleurs, dans des faux consolateurs. Tu as cherché des faux consolateurs qui t'ont amené à être esclave. Moi, j'étais un esclave de la cocaïne quand j'ai crié à Christ. Ça faisait 18 ans que je consommais des drogues et incapable de m'en sortir. Mais un jour, j'ai crié à Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et j'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai dit, si tu existes, si tu es le Fils de Dieu, délivre-moi de la drogue. Et j'ai été instantanément délivré de 18 ans de consommation. Dieu est puissant. Attendez, dans mes notes, c'était marqué, la foule dit Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est puissant? J'ai crié de toute ma détresse au nom de Jésus. Seigneur, si tu existes, si vraiment tu es le Fils de Dieu, prends ma vie, fais-en ce que tu veux. Et si tu es Dieu, tu es puissant, délivre-moi de la drogue. Et j'ai été instantanément délivré. Et un an et demi après, j'ai découvert la parole de Dieu, la Bible. Et non seulement j'ai découvert la Bible, mais j'ai écouté ce que la Bible me disait. Et j'ai fait ce que la parole de Dieu me disait de faire. Et là, j'ai connu la libération. Alors, dans le pardon biblique, c'est ça. Fais-toi une facture à toi aussi. Parce que tu as besoin de te pardonner. Parce que suite aux offenses que tu as subies, tu n'étais pas obligé de réagir comme tu as réagi. De victime devient responsable. Et quand tu as ces deux éléments-là ensemble, tu connais que tu as été victime, mais tu pardonnes à ceux qui t'ont victimisé. Et ce verset de Genèse 50 est juste extraordinaire. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Hello?
Oui.
Vous savez ce qu'il a subi, trahi par ses frères, jalousé par ses frères, jeté dans une citerne pour le tuer, vendu comme esclave, déporté en Égypte, trahi par la femme de Potiphar, jeté injustement en prison, oublié par les chansons qui avaient promis qu'il irait plaider sa cause, abandonné de tous, sauf de
Dieu.
Et quand il est sorti de prison et qu'il a été élevé à la position de premier ministre d'Égypte, il n'y avait qu'une autorité au-dessus de lui, c'était Pharaon. Et que ses frères, avec toute l'histoire de la famine, sont venus vers lui. Dans Genèse 50, il dit à ses frères, parce qu'il dit, il va nous faire tuer. Avec tout ce qu'on a fait, c'est sûr qu'il va nous tuer. Et Joseph dira à ses frères, vous aviez planifié le mal contre moi. Mais mon Dieu l'a changé en bien. Parce que moi, je n'ai pas vécu dans l'amertume. Je n'ai pas vécu dans la vengeance. Je faisais confiance en mon Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi les choses m'arrivaient, mais je faisais confiance à mon Dieu. Et je veillais surtout à ne pas me priver de la grâce de Dieu en laissant l'amertume entrer dans mon cœur. J'ai réglé les choses. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevé à la position de premier ministre d'Égypte. Et là, il dira, vous aviez planifié le mal contre moi, mais mon Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Pense à ceux qui t'ont offensé dans ton enfance. Ils t'ont fait du mal, mais ton Dieu le change en bien. Alléluia. À travers le pardon, que tu décides d'accorder, à travers les factures que tu fais pour te libérer, pour t'ouvrir à la guérison de Dieu, le Seigneur change la malédiction en bénédiction. Change le mal en bien. Et dans ce processus de guérison, quand l'offenseur reconnaît son offense et vient te demander pardon, tu dis, viens mon frère, viens ma soeur, tu t'es déjà pardonné. Maintenant, on peut être réconcilié. Alléluia. Et pas des petites réconciliations à l'eau de rose. Ouais, je te demande pardon, je m'excuse. Non, pas je m'excuse, je te demande pardon. Et le véritable pardon va produire du fruit. Et il y a des situations où avant qu'il y ait une réconciliation, il faut du temps. Il faut que la personne démontre par ses attitudes, par sa vie, qui a vraiment vécu une repentance. Et là, tu rentres dans un véritable pardon. Donc, en terminant, juste rappel, pardon, c'est pas une émotion, c'est une décision. C'est pas de minimiser ce que tu as subi. C'est une facture détaillée. Le fait de décider de pardonner, efface pas de ta mémoire le souvenir, parce que la mémoire, c'est une faculté qui se rappelle, mais parce que tu as accordé le pardon, tu as ouvert ton cœur à la guérison, et dans le processus de guérison, quand le souvenir revient, il ne porte plus la blessure. Et pour savoir à quel niveau tu es rendu guéri, c'est quand le souvenir revient, tu vois à quel niveau tu es guéri. Moi, aujourd'hui, il y a des situations où je vois que je suis 100% guéri, c'est réglé, c'est du passé. Et il y en a d'autres, je me dis, la guérison n'est pas complète. Mais j'y chemine avec le temps. Et en dernier, réconciliation et pardon, c'est deux étapes. Pour être réconcilié, il faut que l'offenseur reconnaisse sa faute, vienne dans une démarche honnête, sincère. Si tu pardonnes de tout ton cœur, nous dit la Bible, de tout ton cœur, pas du bout des lèvres, de tout ton cœur. Et c'est ce que Dieu nous demande, nous, de pardonner de tout notre cœur. On a péché contre Dieu, on a demandé pardon de tout notre cœur, on a péché contre les autres, on demande pardon de tout notre cœur, et on a péché contre soi-même, donc on se pardonne aussi. Et on règle les factures, et après on s'ouvre à la liberté des enfants de Dieu, et on peut marcher en toute liberté. Amen. Amen. Alléluia. On peut terminer avec une prière? Alléluia. Je voudrais juste marquer cet enseignement par un positionnement. La Bible nous dit que celui qui entend la parole de Dieu et la met en pratique est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Mais celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique se séduit lui-même. Il devient un auditeur oublieux. J'ai entendu, ah oui, c'est bon, ah oui, oui, j'ai oui, c'est... Mais si on ne fait pas. Donc l'appel, il serait très simple ce matin, à travers le message, qui aujourd'hui, dans son cœur, a pris la décision, « Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui, j'ai compris ce qui était le véritable pardon biblique, et je prends la décision de pardonner et de faire les factures qui sont nécessaires aux personnes qui m'ont offensé, parce que je ne veux pas être privé de la grâce de Dieu, je ne veux pas laisser à Satan l'avantage sur moi, parce que j'ignore pas ses desseins. » Si c'est ta décision ce matin, tu veux juste te lever à ta place, comme un positionnement pour dire à partir de maintenant, « Seigneur, je prends la décision de pardonner et je ferai les factures dans les jours, dans les semaines qui viennent, mais je prends cette décision devant toi aujourd'hui. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever à sa place simplement pour démontrer à Dieu, « Je prends la décision de pardonner. »
Je l'ai déjà prise, mais je recommence.
Allez, Catherine, c'est ce qui est... Je vous invite à le faire. Ceux qui disent vraiment, il y a des choses qui ne sont pas réglées, et aujourd'hui, je prends cette décision de pardonner comme la parole de Dieu vient de me l'enseigner aujourd'hui. Amen. Oui, Seigneur, c'est devant toi qu'on vient aujourd'hui, toi, ce Dieu d'amour qui nous a tout pardonné lorsque nous t'avons demandé pardon. Et on se rappelle ce que ta parole nous dit. Père, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je prie maintenant que tu vois toutes ces personnes qui se tiennent debout devant toi parce qu'elles ont des pardons à accorder. S'il y a pardon à accorder, c'est qu'il y a eu offense. Et qui dit offense dit blessure. Alors Père, je prie maintenant que l'onction de ton Saint-Esprit, toi qui es appelé le Consolateur, vienne consoler mes frères et sœurs de ces offenses qu'ils ont subies et qu'à travers le pardon, eh bien le processus de guérison puisse prendre place et les amener dans une guérison complète. Tu veux que nous soyons un peuple libre, un peuple guéri afin de pouvoir amener la guérison à d'autres, afin de pouvoir amener la liberté à d'autres. Alors merci Seigneur pour ce positionnement ce matin. Que ta bénédiction soit sur chacun, chacune et que tu les conduises par ton esprit. Eh bien, dans cette démarche de facturation détaillée des offenses subies, mais sur laquelle ils vont appliquer l'œuvre, le sacrifice de Christ à la croix et dire maintenant, comme Christ m'a pardonné, je te pardonne aussi. C'est ma prière pour chacun de vous, dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Amen.